France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
Maître du comique, de l'absurde, maître des jeux du sens et des jeux d'idées, Raymond Devos prend les mots au pied de la lettre et jongle avec eux. Devos est certainement l'un des comiques parmi les plus raffinés de son temps. Écrivain, mime, jongleur, clown, musicien, grand lecteur de Bachelard, Raymond Devos est mort en 2006 à l'âge de 84 ans. Il se livrait ici à Émile Noël et parlait de son travail. C'était en 1970.
Est-ce que vous êtes un homme sérieux dans la vie, Raymond Devos?
Et pourquoi pas? Pour préparer les choses, pour les mettre au point, il faut beaucoup de sérieux. C'est pour les trouver peut-être qu'il faut un petit peu relâcher son esprit, il faut avoir l'esprit amusé. Mais une fois qu'on l'a trouvé, il faut énormément travailler, et là, ça demande du sérieux.
Vous habitez dans la vallée de Chevreuse, vous avez d'ailleurs un très joli parc. Est-ce que c'est très utile pour vous? Est-ce que ça a un rapport avec la façon dont vous travaillez?
Mais écoutez, oui et non. C'est au point de vue santé, c'est formidable. Au point de vue repos et finalement au point de vue équilibre. Donc c'est tout de même primordial. Mais je ne sais pas si c'est très très bon pour les idées. Pardonnez-moi de dire ça. Je veux dire, c'est parce que je crois que les choses comiques se trouvent un petit peu dans la gesticulation. Elles se trouvent un peu dans le va-et-vient des choses, une espèce de tumulte, dans un grand mouvement, si vous voulez. Moi, je trouve beaucoup de choses en regardant les gens vivre, en les écoutant parler, etc. Alors, il est évident qu'ici, c'est un peu une retraite. Alors, il ne faut pas en abuser.
Dans la pièce dans laquelle nous sommes, il y a plein d'instruments de musique. Enfin, on sent que c'est un endroit où il y a même une petite estrade.
Oui. C'est la petite estrade. Je vous dirais que c'est un caprice du menuisier. C'est le menuisier qui a arrangé la pièce.
Ah bon ?
Je ne sais pas si je lui ai demandé. Je ne me souviens pas. Je ne crois pas. Je crois que de lui-même, il s'est dit... c'est de Vos, il faut lui faire une petite estrade, il sera très content d'y monter.
C'est ça.
J'y monte jamais.
Il pourra se regarder. Comme
oui,
ça.
Oui, c'est ça. Oui.
Et tous ces instruments sont pour vous des moyens de travail.
Vous savez, c'est difficile à définir, c'est difficile. Je ne sais pas si finalement j'ai écrit des sketchs pour apprendre un instrument. Je crois que, en tout cas, certains sketchs, comme par exemple le poète et paysan, il est évident que poète et paysan, c'est l'idée du sketch qui m'est venue avant d'apprendre l'instrument. J'ai eu l'idée du sketch et alors ensuite j'ai appris l'instrument parce que c'était indispensable.
Mais dites donc, c'était de la harpe ?
C'était la harpe, oui. Oui, je sais bien que il y a des gens qui m'ont dit, mais enfin, le playback, ça existe, il n'y a pas besoin, vous pourriez faire semblant. de jouer de l'arpe. C'est vrai d'ailleurs, je pourrais très bien mettre un disque, et puis en coulisses, et puis donner l'impression de jouer, mais je crois que c'est une chose qui m'est parfaitement impossible, j'allais dire moralement impossible. Je crois que je ne prendrais pas de plaisir à interpréter ce sketch si je ne jouais pas moi-même de l'arpe. C'est indispensable, puisque c'est finalement un monsieur qui, sentant sa colère monter, etc., pour se calmer, se retourne et joue de la harpe, enfin, etc. Alors si je n'ai pas ce sentiment physique de me calmer, de jouer, c'est-à-dire de provoquer des sons, je crois que ce n'est plus intéressant, quoi. Demander à un comédien d'apprendre quelque chose pour les besoins ou de son rôle ou les besoins d'un scénario ou de quoi que ce soit, vous allez voir avec quelle frénésie il va se mettre au travail. Moi, je me souviens que, par exemple, pour les pupitres, j'avais demandé à des comédiens d'apprendre à jongler ou d'apprendre à monter sur un monocycle. Eh bien, vous savez, je n'ai pas eu besoin de le dire deux fois. Et ils s'y sont mis et ils s'y sont parvenus. Alors, vous voyez, je crois que le comédien aime beaucoup le petit exploit.
C'est à l'usage des paysans que les rues. Oh oui, parce que la colère du paysan, c'est terrible. Terrible! Alors moi, j'ai supprimé la herse. Alors, comme vous voyez, ça se compose de deux parties, n'est-ce pas? Vous avez la partie tracteur, que j'ai appelée la partie Pisani. Parce que le moteur est italien. Et l'autre partie, c'est la partie Malraux. C'est la partie artistique, n'est-ce pas? Alors, suivez bien mon raisonnement. Le paysan s'en va au champ. Bon, grosse panne, comme celle qui vient de m'arriver. Grosse colère du paysan. Oh, pas garage à l'horizon, que fait le paysan? Il démonte le moteur, comme il n'y connaît rien, il remonte tel qu'il était, et il s'imagine que ça va repartir. T'es d'une naïve. À cette injonction, un cheval repartirait pas un moteur. Regrosse colère du paysan. Pour peu que le prix du blé ait baissé et celui du tabac augmenté, c'est le barrage agricole. Armé d'une clé anglaise, le paysan va-t-il frapper Pisani? Non! Car grâce à mon système, un simple demi-tour, et de Pisani, il passe chez Malraux. C'est la prière, c'est l'extase. Dieu tout-puissant, qui fit la créature,
musicien, finalement, on ne sait vraiment pas si on est musicien ou pas. Je veux dire, si j'avais appris la musique tout jeune, enfin, j'aurais pu vous dire je suis musicien ou je ne suis pas musicien, parce que j'aurais été au bout de la musique. Là, ce n'est tout de même pas le cas, parce que j'ai appris tout ça en cours de route, et quelquefois pour les besoins d'une cause. Alors, je me débrouille pas mal, ce qui prouve tout de même que je suis assez adroit, quoi, peut-être assez habile, peut-être que j'ai une certaine oreille musicale. Mais comme je n'ai jamais été au bout des choses, comme je n'ai jamais, par exemple, fait partie d'un orchestre, ou joué dans un orchestre, je ne peux pas vous dire si je suis musicien ou pas. Ça demande tellement de travail, vous comprenez, qu'on ne peut pas faire de musique en dehors d'un instrument, ce qui est tout de même assez affreux. Je trouve ça épouvantable. Je trouve qu'il faut déjà se procurer un instrument, le travailler pendant des heures, en être maître, pour pouvoir arriver à interpréter ou à s'exprimer. Ben, je trouve ça déjà une épreuve terrible.
Et donc, régisseur, pour le gala de la police de ce soir, il reste encore combien d'auditions à faire passer, s'il vous plaît?
En trois ou quatre, monsieur.
Trois ou quatre, encore, oui. Monsieur, dépêchons-nous. Faites entrer le suivant tout de suite.
Le suivant, s'il vous plaît.
Voilà, merci.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur. Faites-moi rire. Bravo, très
merci
bien.
Beaucoup.
Dites-moi, est-ce que vous pouvez jouer du violon sans monter sur le petit vélo? Alors je regrette, ça ne m'intéresse pas.
Vous demandez tous l'impossible.
Au suivant, s'il vous plaît.
Le suivant, s'il vous plaît.
Suis-je ou ne suis-je pas musicien? Je n'en sais rien. On ne sait jamais si on se trompe ou pas. On ne sait pas. Moi, je me suis toujours pris pour un comédien. Et je continue à me croire comédien. Mais peut-être que je me trompe parfaitement. Je suis peut-être comédien parce que je me suis acheminé à la suite d'un concours de circonstances à jouer la comédie et à aimer ça et à m'y sentir bien et finalement à obtenir quelques succès, c'est-à-dire quelques encouragements. Alors j'ai persévéré dans cette voie, mais rien ne prouve que finalement, si j'avais commencé mes études en médecine, peut-être que j'aurais trouvé ça extraordinaire, j'aurais peut-être une révélation. Ça me surprendrait. Mais enfin, je dis ça, c'est parce que quand même, ça reste assez mystérieux, tout ça.
Mais alors, comment tous ces instruments sont entrés dans votre vie?
Mais parce que j'aime ça, parce qu'il n'y a rien à faire. Je me soupçonne d'avoir écrit un ou deux sketchs pour pouvoir continuer à étudier un instrument. Par exemple, la guitare, lorsque j'ai commencé à apprendre la guitare, c'était parfaitement superflu par rapport à mon métier de comédien. C'était même une espèce d'esclavage. J'étais obligé de faire 2-3 heures de guitare par jour. Or, j'avais mon métier de comédien. Il fallait que j'aille jouer. Il fallait que je mende. Et j'ai raté même des affaires à cause de ma guitare. Alors, pour justifier ça, un jour, tout de même, je me suis dit, et l'idée venant, je me suis dit, je vais faire un sketch avec ma guitare. Alors, Dieu merci, j'ai eu une idée. Ça a été l'histoire de J'ai des doutes. J'ai aussi fait la rota, par exemple. Mais enfin, je veux dire, ça m'a obligé. Et ça a justifié l'étude de l'instrument.
Je vais vous jouer une étude de Sore. Sore était espagnol de 1778 à 1830. J'ai des doutes. C'est pas sa pointure, alors il a force, vous comprenez. Alors moi, après, il n'a qu'à s'en payer une paire, quoi. Oh, c'est horreur de... Sore était espagnol de 1778 à... jusqu'à sa mort. Et après de très belles études, il en a écrites plusieurs, très belles aussi, dont la cinquième que je vais avoir le plaisir de vous interpréter. Horreur qu'on se serve de mes affaires. La cinquième de ça. Pyjama, c'est pareil. Depuis qu'il a acheté le même, je ne retrouve plus le mien. Il s'en sert, il n'y a pas de doute. Ma femme ne voulait pas le croire. Hein. J'ai dit, tu vas voir, un de ces jours, il va aussi se servir de tes affaires. Mon vieux, le lendemain, je retrouve son soutien-gorge dans la poche de son pardessus. Il s'en sert, il n'y a pas de doute.
Et la tradition des grands clowns musicaux, ça vous a pas un peu...
Ah si, sûrement, ça... oh là là, alors ça, sûrement, ouais. Sûrement. Vous voyez, comme finalement c'est trouble, ici finalement c'est très complexe. Bien sûr, moi j'étais, quand j'étais gosse, j'étais fasciné par les clowns. Mais je fascinais, vraiment, c'est le mot, vous voyez ce que je veux dire, c'était des faits enchantements, tout y était, tout, c'était le masque du clown, c'était les couleurs. Auquel j'étais sensible, c'était évidemment les instruments, les sons produits par le clown, les sentiments exprimés, c'était, je ne sais pas, moi par exemple un saxophone, les reflets d'un saxophone entraient en ligne de compte, vous comprenez? Tout ça, c'est ça la fascination. Ce sont des choses multiples, des impressions multiples qui procurent une espèce d'enchantement. Et moi j'ai eu ça, alors il est évident que la forme d'un instrument aussi comptait. Alors finalement, je crois que ça m'a marqué, ça a marqué toute ma vie.
Bien, les enfants, très bien. Nous allons répéter le salut maintenant, alors vous vous levez tous. Voilà, parfait. Bon, asseyez-vous, nous répétons la valse. Vous êtes en retard, vous.
Excusez-moi.
Ah, pas sûr, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Attention, vous êtes prêts? Révance. La porte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, attention, révance. La porte, je vous prie. Voilà, merci beaucoup. Bon, attention, vous êtes en avance, vous.
Mais non. Je suis en retard, vous avez vu?
Oui, on voit ça, oui. J'ai vu que vous étiez en retard, oui. Vous êtes en avance pour votre...
Pour votre âge!
C'est fini, vous? Qu'est-ce que ça veut dire? L'avance!
La porte, s'il vous plaît!
Merci beaucoup. Bon, attention. Vous fumez? Hein? Moi, non. Bon. Alors, c'est vous?
Moi non plus.
Qu'est-ce que vous fumez? C'est pas la porte. Non, ce n'est pas la porte. Alors, qui a fait ce bruit de porte? Hein? Qui? J'attends. Qui? C'est vous. C'est vous. C'est vous qui avez fait le bruit de la porte.
C'est moi qui ai fait la porte?
C'est vous qui avez fait la porte.
Oh, mais ça va pas! Oh, mais ça va pas, non? J'ai pas fait 10 ans de conservatoire pour m'amuser à faire le bruit d'une porte, monsieur. Surtout une simple porte. Une double porte, à la rigueur, parce qu'un va-et-vient, ça crée un rythme. Mais une porte. Ah non, pas moi, monsieur.
Bon. Bon, alors qui?
Écoutez, chef, chef, oui. Je ne voudrais pas semer la pagaille. Mais c'est mon camarade qui a fait le bruit de la porte.
C'est moi qui ai fait la porte. Il me ferait sortir de mes gonds. Ah, je vous jure.
Qui a fait ce bruit de porte?
C'est pas nous.
C'est moi alors qui avait fait ça.
Oh, vous me faites chaque fois la même chose.
Oh, la porte.
Enfermez-la.
Quoi? C'est à moi que vous dites ça?
Oh non, chef, c'est une porte qui claque.
Oh, ça c'est une claque qui porte.
Oui, alors.
Oui. Oh, ben alors c'est tout ça.
C'est fini, oui? Assez? Mais qu'est-ce qu'il m'a fichu alors qu'elles sont pareilles? Hein?
Bah, la répétition est terminée. Partez, rentrez chez vous. C'est
bah, écoutez, pour... chef, c'était pas méchant.
Mais je le sais bien que c'était pas méchant, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, après tout, je vieillis, moi.
Mais non.
Oh,
mais
si,
non,
je... Je vieillis, si.
Bien, Pépé.
Là, c'est vrai, je... Mais plus l'autorité qu'il faudrait, je ne sais pas. Alors, c'est fini, ça, c'est fini.
On voulait pas vous faire de peine, chef, on plaisantait, là, alors.
Ouais, bah ça, je l'ai vu que vous plaisantiez.
C'était pas méchant.
Mais non, je le sais bien. Mais je peux plus supporter vos plaisanteries.
Bon, bah on recommencera plus.
Oh, vous me dites ça à chaque fois. Non, c'est fini. L'orchestre est dissous.
Je crois qu'être sérieux, c'est être sincère. Or, être sincère, rien n'est plus facile que d'être sincère. On peut ne pas l'être par intérêt. Mais être sincère, c'est répondre exactement à la question qu'on vous pose, c'est s'interroger et répondre sincèrement à son interrogation. Tandis que amuser, c'est une transposition. Et en même temps, c'est une dégradation. Quand on cherche à amuser les gens à propos d'une chose, on est obligé de la dégrader, de la détériorer pour qu'on s'en amuse. C'est quand même le grand principe, qu'on le veuille ou non, qu'on le discute ou pas. Hein, c'est quand même ça. Quand je me moque des sens interdits, c'est parce que la loi sur la circulation, sur les sens, le sens giratoire, le stationnement, tout ça, qui est utile, parce que sans ça, ce serait l'anarchie, moi, je la trouve pesante. Personnellement, je la trouve pesante. Je pense qu'elle est pesante pour pas mal de gens. Alors, pour pouvoir la supporter, je m'en moque. C'est-à-dire, je la dégrade. Je dis, on a mis des sens interdits partout et on ne peut plus sortir. Bon, etc. Évidemment, j'exagère. Je pourrais vous raconter ma journée d'hier. Très sérieusement, je l'écrirai. Hier, je suis parti à 8h, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et je vous ai j'ai vu ça, et ça m'a donné, hein, j'ai ressenti ça en voyant ceci. Je vous dirai, je vous décrirai. Mais si je voulais vous amuser avec ma journée d'hier, il faudrait que je me casse la tête. Il faudrait que je trouve des plans comiques, que je les exagère, que j'invente des situations, etc. Ou bien alors que j'élude tout ce qui n'est pas amusant. Mais il ne resterait pas grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire ?
Bien sûr.
Je serais obligé d'inventer des histoires. Et tout ça quand même pour vous amuser. C'est-à-dire, tout de même, il y a là quelque chose, au risque d'ailleurs de ne pas réussir. Je m'empresse de le dire. C'est-à-dire, je crois que dans le fait de vouloir amuser son contemporain, il faut l'aimer. Particulièrement. Les drames, c'est important. Mais peut-être que le comique aussi, peut-être que... Moi, je dis que c'est capital de rire. Hein, je vais jusque-là, moi. Je rêve de dire le misanthrope, en tout cas la première scène de l'acte 1. Qu'est-ce donc avez-vous, laissez-moi, je vous prie, comme un monologue. Je rêve de ça. Il faudrait que je dise, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, j'arrive, et puis tout d'un coup, je rencontre Alceste, et puis il se retourne, il me dit... Enfin, je vois, il boudait. Alors je lui dis, mais qu'est-ce donc avez-vous ? Ben, il me dit, laissez-moi, je vous prie. Je lui dis, mais enfin, dites-moi, mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie. Il me dit, laissez-moi, vous dites, j'ai couru vous cacher. Je lui dis, mais enfin, et puis je ferai un monologue, pourquoi pas.
Il y a dans Raymond Devos de l'interprète et de l'auteur. Et c'est assez difficile de les séparer, finalement, bien sûr. Vous avez démarré dans la vie comme comédien, vous l'aviez dit d'ailleurs, vous vous considérez encore comme un comédien. Vous avez démarré comme comédien de quelle façon ? Comment est-ce que finalement vous avez fait vos premiers pas dans ce métier qui vous a amené jusque-là ?
Vous savez, alors là, je jouais évidemment dans une troupe d'amateurs. Mais j'allais dire comme beaucoup d'autres. Mais pour moi, c'était sérieux. C'était... Parce que parallèlement, je travaillais, je gagnais ma vie. Comme les autres, on fait. Mais pour moi, c'était ça. Et depuis un certain temps déjà, je veux dire que tout de même, il arrive un moment où il faut se décider. Alors là, il faut tout de même faire ce qu'on appelle un examen de conscience, hein, lorsqu'on arrive à l'âge d'homme. Et il faut mieux ne pas se tromper, parce que c'est très important. Et je me suis, après ce qu'on appelle un examen de conscience, je me suis dit que j'étais comédien, pour différentes raisons, en me souvenant de, en me rappelant que, etc. Je me suis dit, mais je suis comédien, c'est-à-dire, je ne suis pas fait pour faire sérieusement les choses, je suis fait pour les jouer. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je suis comédien, et je me suis inscrit comme comédien, c'est-à-dire qu'il n'y a plus... Il n'y a plus de questions, c'est fini, c'est ça, c'est définitif. Et je crois que je mourrai comédien. Alors, auteur, ça m'est venu après, par la suite. Parce que j'ai écrit une petite chose comme ça, en m'amusant. Mais je crois que chez moi, c'est quand même le comédien qui décide. C'est le comédien qui invente son texte. Et ce n'est pas l'auteur qui écrit pour le comédien. Je crois que c'est ça, c'est un peu dommage. Un petit peu dommage.
Vous vous sentiez déjà comique au début ?
C'est-à-dire que j'ai toujours aimé provoquer le rire. C'est-à-dire dire des choses et faire en sorte qu'on s'en amuse m'a toujours semblé un plaisir assez supérieur, enfin assez rare. C'est oui. Alors, moi je dois dire, Pierre, je pense que le rire c'est tout de même... Enfin, quand on sait ce que c'est, pardonnez-moi, on ne va pas faire une théorie sur le rire, mais quand on sait à quoi ça correspond, le rire, pourquoi les gens rient, pourquoi les gens se sont ménagés la possibilité de rire, c'est capital, c'est énorme. Le rire et le rêve sont deux choses énormes. C'est par le truchement de ces deux phénomènes qu'on s'évade de la réalité. Alors, vous voyez comme c'est considérable. Alors moi, ça m'a toujours semblé quelque chose de capital, essayer d'amuser les gens. Et puis, je pense que c'est la façon la plus intelligente de dire les choses sérieuses. Parce que dire à quelqu'un, c'est pas bien ce que vous faites, vous savez, il faut être prétentieux. Il faut pas trop se connaître soi-même, parce que c'est difficile de dire aux gens vous avez tort. D'ailleurs, le sait-on. Mais ce qui est plus abordable, plus élégant, c'est de parler des défauts des hommes en général. C'est bien plus intéressant parce qu'en même temps, on parle de soi. On se met dans le coup. Ça a plus d'allure. Moi, j'aime autant me moquer de moi-même que d'un autre. Je vous dis la vérité.
La silhouette de tout votre personnage, d'ailleurs, reflète un petit peu ça. C'est ce personnage qui est une espèce de... qui se fonde un peu sur l'ahurie pas tout à fait adaptée.
Le mot ahurie, évidemment. Si on va au bout, c'est ça. Et puis alors, évidemment, on est obligé de fixer le personnage. Je ne veux pas dire le fixer. Vous voyez, je veux dire, il faut un contour. Hein, il faut, etc. Mais finalement, je ne pense pas que ce soit ahurie, dans le sens fort du mot. C'est quelqu'un qui ne comprend pas parce qu'on ne peut pas comprendre, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Alors, il discute, il cherche à savoir. Alors, mettez là-dessus les malentendus, les dialogues de sourds, erreur d'un mot qui a double sens, qui est mal compris. Alors, finalement, quelqu'un veut faire une chose, il ne peut pas. Une chose simple, parfois, souvent. Ou bien alors, il est tout d'un coup... stopper, barrer, empêcher d'eux. C'est ça que j'ai voulu faire, moi, enfin, que je fais. Au fond, que j'ai pas voulu, j'ai rien voulu. C'est ce que je fais.
Oh là là ! Oh, ça va mal. Ce sont mes chaussures. J'avais dit au vendeur, elles me vont pas. Et il me dit, de l'extérieur, elles font bien. Et il dit, oui, mais à l'intérieur, elles font mal. Il me dit, de l'extérieur, ça se voit pas. Mais dis alors, vous n'avez qu'à me les retourner. Mais si je vous les retourne, ça se verra. Et bien, je vois pas que ça se voit, je les garde comme ça. Et puis après, en partant, il me dit, si ça va pas, vous n'avez qu'à me les retourner. Ça n'a pas de sens. Mais il y a des choses qui n'ont pas de sens. Un chapeau, ça n'a pas de sens. Moi, quand je mets le mien, il y en a qui me disent, pour porter un pareil chapeau, faut être malade. Et puis d'autres qui me disent, avec ce chapeau, t'as bonne mine. Les avis sont partagés. Je mettrais bien un béret, mais un béret, ça n'a pas de sens non plus. Vous pouvez le tourner de tous les côtés, il est toujours de face. Alors, il faut le mettre sur l'oreille à cause du soleil. Mais le soleil, ça n'a pas de sens, ça tombe. Ça. Alors, quand le soleil est là, béret, il faut le changer d'oreille. Et quand le soleil se couche, le béret, il faut le mettre dans sa poche. Et là aussi, les avis sont partagés. Il y en a qui le mettent dans la poche droite, d'autres dans la poche gauche. Puis il y en a qui le mettent dans la poche revolver, mais ça n'a pas de sens. On met jamais un revolver dans cette poche-là. On le met dans un tiroir. Ok, ça n'a pas de sens non plus. Parce que si vous mettez votre revolver dans un tiroir et que vous êtes attaqué dans la rue, n'allez pas sortir votre béret pour vous couvrir. Pour mettre un casque. Un casque, ça n'a pas de sens. Sauf en cas de guerre. Et comme la guerre, ça n'a pas de sens, on lui garder son chapeau.
Mais cette prise de conscience de l'absurde et de la logique de l'absurde dont vous parlez, c'est, je ne dis pas que ce soit récent, mais c'est tout de même, cette mise à jour est relativement récente. Enfin, vous allez sans doute rougir parce que là, on va aborder des noms qui sont célèbres jusqu'à certains prix Nobel récents. Mais depuis la philosophie de Camus jusqu'à Beckett, en passant par Ionesco, et d'ailleurs, on a aussi parlé de Kafka à votre propos, j'ai lu quelque part De Vos, c'est le Beckett du music hall. Eh bien... C'est un fait que, je ne sais absolument pas de faire de hiérarchie ni de comparaison, mais c'est un fait que là, on se trouve dans une même famille de pensées qui s'exprime avec sans doute des moyens différents, mais on se trouve, c'est une époque où tout d'un coup, l'absurde jaillit à la face des gens.
Je crois que oui. Quand je vois mon cas, parce qu'on parle de Kafka, il y a des moments où je ne vois pas de solution. Ça ne m'empêche pas de vivre, ça ne m'empêche pas de rire, ça ne m'empêche pas d'être heureux, mais il y a une espèce d'inquiétude permanente C'est pas tellement que j'ai peur de tomber en sortant d'ici. Mais c'est en arrière-plan quelque chose qui fait que... C'est pas non plus là quoi bon. Ce serait là quoi bon si je ne riais pas. Si je ne m'amusais pas des choses, d'ailleurs je ne comprends pas quelqu'un qui a le courage de vivre sans rire. Déjà, alors si on ne se met pas à rire de certaines choses, alors elles sont insupportables et intenables. Mais tout de même, vous savez très bien qu'il y a un tas de questions qui n'ont obtenu aucune réponse. Et des questions primordiales, je ne parle pas des petites questions stupides, ça je veux dire. Mais les grandes, il y a des grandes questions qui n'ont pas... Et que l'on pose toujours.
On ne sait toujours pas. Si Dieu existe.
Si Dieu existe, voilà, entre autres. Des questions comme ça, il n'y a aucune réponse, et on continue à se les poser. Continue. Etc. Alors rien que ça. Alors quand on découvre, car finalement, c'est pour ça que c'est pas désespéré. Et ça ne le sera jamais. Tant que l'on s'intéressera à la vie, à la matière. Tant qu'on cherchera à savoir comment c'est fait, etc., c'est tellement passionnant qu'on ne s'ennuiera pas tout de même. On ne s'ennuie pas.
Et alors finalement, ce que vous faites, est-ce que vous croyez que c'est plus le reflet de ces différentes observations et de ces constatations et de ces réflexions que vous pouvez mener, ou aussi la réflexion, ou plus exactement, je dirais plutôt une espèce de sécrétion de votre personnalité, en d'autres termes, plus simplement, est-ce qu'il y a un fond d'angoisse chez vous, ou est-ce que cette angoisse que vous percevez, c'est au travers des choses que vous rencontrez?
Il est évident que je suis sensible à toutes ces inquiétudes. Je les réfléchis. Mais ce qui veut dire que je suis sensibilisé par rapport à ces inquiétudes. Donc c'est un peu dans ma nature. Mais ceci étant dit, moi je suis pas plus triste qu'un autre, pas plus maussade qu'un autre. Je n'ai pas d'idée de suicide. C'est capital. Pas du tout. Je tiens à la vie, je la trouve merveilleuse. Un matin ensoleillé, c'est prodigieux. Donc, personnellement, puis vous me faites beaucoup d'honneur de parler comme ça. Moi, je me considère vraiment, je vous dis la vérité, c'est pas de la fausse modestie, je considère comme quelqu'un tout à fait normal, tout à fait absolument pas monstrueux. Je suis monstrueux par rapport à une certaine chose sociale, parce que je suis parfaitement... Comment dirais-je, je suis pas dans le coup. Je suis pas dans le coup parce que je suis tellement isolé. Mes préoccupations sont particulières et parce qu'elles sont comme ça. Mais je suis quand même très 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 dans le coup. Alors, je ne suis pas particulièrement ennuyeux ni ennuyé. Mais je suis sensible à ces inquiétudes et je ne peux sans doute pas les oublier.
En général, le métier d'artiste est un métier, surtout quand on est obligé de, comme vous, d'inventer un certain nombre de choses, c'est-à-dire quand on n'est pas uniquement interprète.
Vous savez, moi, j'aime pas beaucoup parler d'artiste parce que j'aime pas qu'un poète dise « nous les poètes ».
Ouais.
Ça m'a toujours semblé une chose.
Oh, oui, mais
quand un poète dise « vous savez, nous les poètes », c'est déjà, qui sait, qui peut prétendre être un poète? Or, nous, un artiste, évidemment, on est inscrit. On est inscrit en que profession artiste. Et je dois dire que c'est quelquefois très dur à supporter. C'est que la vie d'homme est tout de même détériorée parfois. Elle est... Comment dirais-je? Elle se décolore par rapport à l'activité d'artiste. Enfin, il est évident que c'est... Quelquefois, on s'oublie. Et il est évident que lorsque je joue des situations, rien que le fait de, lorsque je fais le one-man show, ce qui m'arrive assez souvent, pendant 2 heures, être une espèce de personnage, c'est moi et c'est pas moi, sur scène, accomplir des petits exploits tels que la jonglerie ou jouer d'un instrument, tout ça, c'est déjà quelque chose d'assez exceptionnel. Je veux dire, ça, cette espèce de reproduction régulière à une certaine heure, devant certaines gens, d'un spectacle comme ça qui a été inventé, composé, c'est déjà en soi quelque chose de particulier. Vous me direz que rester pendant des heures devant un truc à boulonner, je sais pas quoi, une pièce, c'est aussi pas assez particulier.
Oui, mais c'est une façon d'appréhender la réalité différente.
Quoi. Oui, différente. Mais je crois que nous, c'est ça. Nous, il y a une espèce de... Ce qui est justement difficile, c'est que on n'arrête pas de se plonger, de se retirer d'une espèce de rêve. Et cet exercice est assez difficile. On rêve, et puis le produit de son rêve, on le réalise. On le réalise dans le truchement d'un sketch ou d'une pièce, évidemment, si on en a l'envergure. Hein. Alors, c'est un exercice difficile. On ne sait plus trop où on en est, parfois.
Il y a quelque chose qui ne va pas, papa. Il y a quelque chose qui ne va pas, papa. Il y a quelque chose qui ne va pas, papa. Comme dans un rêve, le chef d'orchestre entrevoit les conséquences de sa décision. L'orchestre dissout. Que deviendraient ses musiciens? Il les imagine dans diverses situations, et c'est l'histoire des pupitres.
Il a bon dos, le vieux pont-neuf, bras étendu d'une rive à l'autre. Il en a vu de toutes les couleurs, le vieux pont-neuf, le vieux pont-neuf. Il en a vu défiler des bateliers et des bateaux. Sur la Seine, il en a vu des défilés et des parades, des bateleurs et des bateaux.
Dites donc, vous !
Oui ?
Vous savez pas qu'il est interdit de klaxonner, non ?
Je n'ai pas klaxonné, monsieur l'agent, et
on... Ben, vous me prenez pour un contractuel ?
Oh, mais faut pas vous fâcher, je vous dis que je n'ai pas klaxonné.
Bon, votre carte grise.
Mais tenez, la voilà.
C'est 1000 francs.
Combien ?
1000 francs.
Oh.
Et n'y revenez pas, hein.
Oh, ben ça, alors. Oh.
Tiens, 40, 50. Tiens, enlevez-le.
Tiens, attends, je vais là-bas.
Ben, vous êtes toute seule.
Ah oui, oui, mais je n'ai pas klaxonné.
Bon, votre carte grise.
Voilà.
C'est 1000 francs.
Combien ?
1000 francs.
1000 francs, ben ça alors.
Ça. Tiens, sur 100.
Bien, voilà 10 qui nous font 100.
Eh, dis donc, ça roule ce soir, hein ?
Ah, mais on n'a pas le temps de souffler.
Qu'est-ce qui te prend, t'es fou, non ? Tu viens de nous faire perdre un client, là ?
Je ne sais pas. Non, je ne sais pas, tu comprends ? Avant, j'étais soliste au concert Padelou. Alors, ce bruit de voiture, d'un seul coup, ça m'a rappelé Wagner.
Wagner !
J'étais parti, hein. Si tu m'avais pas sifflé, hein.
Mais...
Car tu m'as sifflé, hein.
Ah oui !
Salaud ! Tu m'as sifflé pendant ton solo, hein.
Mais Turbin, c'est Turbin, non ?
Wagner !
Allez, Dodo, ressaisis-toi !
Mais j'ai pas klaxonné, monsieur l'agent.
Oh, mais vous me prenez pour qui ?
Pour un co-contractuel.
Bon, votre carte grise.
Voilà, monsieur.
Mais dites-donc, vous n'êtes pas français, vous ?
Non, pas encore.
Bon, ben, c'est 1000 francs.
Combien ?
1000 francs ? Oh. Et que je vous y reprenne pas à klaxonner, hein ?
Il n'y a pas de danger, j'ai pas de klaxon.
Tiens, là, t'es 10%.
Non.
Que t'en veux pas ?
J'en veux 15.
Mais t'es fou !
Non, j'ai de la dignité. Quand on joue de la trompette comme j'en joue, on se fait payer.
Mais on te demande pas de jouer de la trompette, on te demande de klaxonner.
Écoute, hein, si t'es pas content, hein, t'as qu'à en prendre un autre. T'as qu'à prendre 6 louis du pont d'Alma. Et accepte n'importe quoi. Seulement pour s'en sortir, il est forcé de doubler. Ah, il fait 2-3 ponts dans la même soirée. Résultat, plus de lève, le souffle court, et quand il pousse, là, ça se coince. Je serais automobiliste, je donnerais pas 1000 balles pour ça. Mais prends-le, mon Dieu, prends-le.
Ben c'est bon, je prendrai un gars de la garde républicaine, moi.
Celui-là, tu ne l'auras pour rien. Seulement, acceptera-t-il de jouer dans l'ombre?
Oh, dodo, me laisse pas tomber, quoi, une lame.
Voyons, mais qu'est-ce qui vous prend?
Oh, rien, chef. C'est quelqu'un qui klaxonnait.
Oui, ben oui, c'est lui, procès verbal.
Oui, chef. Dites donc, vous, vous savez pas qu'il est interdit de klaxonner, non?
Qu'est-ce qui te prend?
D'abord, me tutoyez pas, puis donnez-moi 1000 francs.
Je sais pas, on a fait 5 voitures.
Qu'est-ce qu'il dit?
Il dit qu'on a fait, qu'il a pas de voiture.
Alors, pourquoi a-t-il un klaxon?
Qu'est-ce qu'il dit?
Il demande pourquoi t'as un klaxon.
C'est pas un klaxon, c'est une trompette de cavalerie.
Qu'est-ce qu'il dit?
Il dit que c'est une trompette de cavalerie.
Alors, où est son cheval?
Qu'est-ce qu'il dit?
Il demande où est ton cheval.
Mais j'ai pas de cheval.
Il a pas de cheval.
Qu'est-ce qu'il dit?
Il dit que j'ai pas de cheval.
Alors, il nous emmène en bateau.
Mais qu'est-ce qu'il dit?
Il dit qu'il les emmène en bateau.
Mais j'ai pas de bateau.
Allez, embarquez-le.
Bon, allez, embarquez-le. Allez, en route.
À pied?
Mais non, en voiture.
Mais puisque c'est une trompette de cavalerie.
Qu'est-ce qu'il est? Quoi?
Non, il l'a pas dit. Il l'a pas dit.
Mais allez, embarquez-moi ça quand même. Allez, où je...
Dans la classe.
Discutez pas. Allez, hop, on va dire.
Le comique ne permet pas, j'allais dire, d'excentricité. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Le comique, c'est une chose très simple. Ça doit être une situation simple, des mots de tous les jours, des phrases, etc. Sans ça, les gens ne suivent plus. Ouais, et dans la mesure où c'est réussi, il y a évidemment un arrière-plan qui est intéressant. Mais je veux dire, en soi, la chose comique est une chose réelle et très, 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 j'allais dire, quotidienne et... J'allais dire rude aussi dans son explication, simple, même simpliste. Je voudrais bien prendre un exemple, mais c'est bien difficile. Oui, je ne sais pas que par exemple si on m'avait aidé. Donc, si on m'avait aidé, c'est ça. Alors c'est quand même une grande idée, c'est quand même quelqu'un... Les gens cherchent des excuses à leur échec. Ils disent c'est parce qu'on ne m'a pas aidé, si j'avais eu telle somme à tel moment, j'aurais fait ceci. Vous voyez des gens qui m'ont dit, mon Dieu... Tiens, si j'écrivais un livre sur ma vie, si. Ouais, et moi, quand j'ai voulu le transposer, j'ai pris des exemples très simples. Je serais plus grand, parce que j'aurais été mieux nourri. J'aurais suivi mes études, j'aurais continué mes études, alors j'aurais une tête comme ça, plus grosse. J'aurais été un héros. Mais ce sont des exemples types. Hein, alors c'est là où c'est difficile, c'est cette transposition-là qui est difficile.
Alors comme ça, parce que je le regarde, il me dit que c'est à vous regarder, bon, il me dit, t'es fou, là. Il a de la chance que je sois diminué physiquement, parce que moi, si on m'avait aidé, je devrais être plus grand, je devrais être comme ça, si j'avais été mieux nourri. J'aurais pas fait étalage de ma force, je serais resté simple, mais les petits gars comme ça, moi, je les raterai pas. Ça t'ennuie que je te regarde? Bien, je te regarde tout de même. Et j'insiste. À quoi tu te dégonfles? Ben, où c'est qu'il est?
Ah, tu baisses les yeux, hein?
T'inquiète pas, je crois que jamais un homme était. Allez, va-t'en, là. Va-t'en. Je ne te retrouve jamais sur mon chemin. Si on m'avait aidé, moi, j'aurais continué mes études. J'aurais eu une tête comme ça. Oh, j'aurais pas fait étalage de ma science, je serais resté simple. J'aurais mis une casquette, j'aurais travaillé en usine. Alors la femme du directeur serait venue me voir, tout ça. Vous n'êtes pas comme les autres, vous. Mais si, madame, mais si. Ah, elle m'aurait dit non, non, vous avez une certaine distinction. J'ai mes deux bacs. Elle m'aurait dit, c'est non, ça.
Maurice, il faut que je vous dise une chose. Ma fille est amoureuse de vous. Elle en est tombée malade. Puis-je la voir, madame? Elle est dans sa chambre? Vous permettez. Margaret! C'est moi, Peter!
Sauver la mer avec. Moi, si on m'avait aidé, j'aurais été un héros. Pendant la guerre, j'avais une occasion. Si les copains m'avaient suivi, au lieu de me suivre, ils ont foutu le camp. Alors j'ai suivi les copains. Ça, j'aurais été un héros. Bon, j'aurais pas fait étalage de mon héroïsme. J'aurais resté simple. Cigarette, les copains. Ouais, les gars, il y a un pont à faire sauter. Vous me suivez? Alors restez là, j'irai tout seul, c'est trop dangereux. Tu as du feu, toi? Eh bien, pleure pas, quoi. Tu sais bien que je reviens toujours. Tiens, toi, si je reviens pas, tu donneras ça à ma mère. Passez-moi la grenade. Mission accomplie. Ah oui, j'aurais fait sauter le pont, moi. Tel que je me connais, j'aurais sauté avec. Je serais mort. Si j'y ai un héros. C'était un être exceptionnellement doué. Il avait le sens de la grandeur. C'était une forte tête. Ah, si seulement on l'avait aidé. T'es fou, toi ?
Et le comédien, quelquefois, vous faites après l'auteur, comme on dit. Hein, il dit, mais cet auteur, il dit des choses, on peut pas les interpréter. Il faut changer ça. Et quelquefois, le comédien change le texte de l'auteur. Oui, ça arrive.
Il y a des conflits, l'auteur...
Il y a des conflits, oui. Ah oui, l'auteur ne veut pas. Et l'auteur dit, ah non, c'est bien, je coupe pas. Et le comédien dit, ben oui, mais moi, je peux pas dire ça, c'est pas possible, et puis c'est trop long. Ce qui m'a amené un jour à écrire une chose sur le dédoublement, ouais. Forcément. C'est un aboutissement logique.
Ça, c'est un cas curieux. C'est un cas de dédoublement de la personnalité. Excuse. Mon pianiste, hier, apparemment, il est là, alors que visiblement, son esprit est ailleurs. Sans ça, il ne ferait pas cette tête-là. Il y a des choses troublantes comme ça, auxquelles on ne prête aucune attention. Vous avez des portes qui s'ouvrent toutes seules. Vous savez, vous arrivez dans un magasin. Ça vous est arrivé aussi, ça? Avant que vous n'entriez, les portes s'ouvrent. Alors on vous dit, oui, c'est un œil électronique. Tiens! Ouais, c'est tout simplement votre double qui passe devant vous et qui vous ouvre la porte. Alors on vous dit, oui, mais alors qui la ferme? Ben c'est votre ombre, tout simplement. On le sait, oui, à condition d'être éclairé par devant. Mais si vous êtes éclairé par derrière, l'explication est encore plus simple. C'est votre ombre qui vous ouvre la porte et votre double qui la ferme. C'est tout. Le dédoublement de la personnalité, ça existe. Je vais vous citer un cas. Un cas dramatique. Je connais un critique qui est en même temps auteur. Ce qu'il met en tant qu'auteur dans une situation critique. Vous me suivez? Alors, il a écrit une pièce qu'il a fait jouer, et le soir de la générale, c'est lui qui était dans la salle pour faire la critique. Alors, comme il est sévère, mais juste, le lendemain dans la presse, il s'est éreinté. Il s'est traîné dans la boue. Alors, quand l'auteur a lu sa critique, il s'est envoyé une lettre dans laquelle il disait qu'il n'avait rien compris à sa propre pièce. Depuis, il ne se parlait plus. Quand il se rencontrait dans une glace, il se saluait plus. Et il n'arrêtait pas de s'envoyer des lettres d'injures. En tant que critique, il disait à l'auteur, vous écrivez comme un manche. Et en tant qu'auteur, il répondait aux critiques, critiquer c'est facile, mais pour écrire, c'est une autre paire de manches. Alors après s'être envoyé plusieurs lettres, il s'est envoyé une gifle. Comme c'était pas un lâche, il se l'est rendu. Après s'être envoyé plusieurs gifles, quand il eut compris que d'un côté comme de l'autre, c'est toujours lui qui prenait, il s'est dit, c'est trop bête. Alors il s'est invité à déjeuner. Tout seul, en tête à tête. À la fin du repas, il s'entendait avec lui-même comme deux larrons en foire. À partir de ce moment-là, il s'est appelé nous. Nous allons écrire une pièce, nous la ferons jouer, nous la critiquerons de concert. Et le lendemain, il s'envoyait des fleurs. Des narcisses. Et moi, je l'ai connu à cette période-là, vous voyez, c'est... Un jour, on sonne à ma porte. Ma bonne qui était allée ouvrir, on me dit, il y a deux messieurs qui vous demandent. J'ai deux messieurs, elle me dit, il y en a qu'un, mais il me dit qu'ils sont deux. Ah ben, j'ai alors, c'est lui, faites-les entrer. Effectivement, c'était lui. Je lui dis, asseyez-vous. Je lui dis, qu'est-ce que vous prenez? Il me dit, deux whisky. Comme j'allais à la cuisine chercher les whisky, j'entends une conversation animée, des éclats de voix. Ce que c'est là, ici, il y a un manque de goût. Je reviens, je lui dis, vous me parliez? Il dit, non, nous discutons entre nous. Il me dit, à propos de votre appartement, d'ailleurs. Je lui dis, comment le trouvez-vous? Il me dit, moi, je le trouve bien, mais il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher de critiquer. Il dit, je ne cite personne, suivez mon regard. Je suis son regard. Qui je vois? Lui, qui se regardait dans la glace. Alors il en vient au bout de sa visite, il me dit, voilà, nous avons écrit une pièce à deux personnages et nous voudrions que vous la jouiez. Je dis, qui? Il me dit, vous deux. Je dis, moi et qui? Ben, il me dit, vous et vous. Vous êtes bien comédien. Oui. Il me dit, alors vous vous dédoublez. Alors là, j'ai compris qu'il n'était pas simple. Ah, j'ai dit, oui, mais en ce moment, nous ne sommes pas libres. Il me dit, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, je joue les deux orphelins. Ah, il me dit, alors je regrette. Alors il s'est levé en se faisant passer devant. Et en disant, après vous, devant la porte, ça n'en finissait plus. J'ai ouvert la porte à double battant, il est sorti l'un derrière l'autre. Et quand je repense à ça, quelquefois je me dis, tu aurais peut-être mieux fait d'accepter de jouer sa pièce. Oh, puis non, quoi, elle pouvait pas être bonne. Mais qu'est-ce que t'en sais, tu l'as pas lu? Je vais pas aller lire la pièce d'un fou. Et qui te dit qu'il est fou? Ah, bah plutôt deux fois qu'une, non? Il parlait tout seul. Il arrêtait pas de discuter avec lui-même. Bah, et toi, en ce moment, qu'est-ce que tu fais donc? Ah, oui, tu as raison, tiens. Je ne suis qu'un sot, doublé d'un bel imbécile. Là, on ferait mieux d'aller prendre l'air, hein. Ça nous ferait du bien. Mesdames, messieurs, excusez-nous, nous allons prendre l'air. Et quand nous serons calmés, je reviendrai. Vous voyez, hein, souvent, on se prend pour quelqu'un. Alors qu'au fond, on est plusieurs. Mais...
J'ai le souvenir de Raymond Devos, comédien, dans la compagnie Jacques Fabry. Est-ce que vous étiez comédien depuis longtemps lorsque vous avez commencé à travailler avec Jacques?
Non, pas tellement. Pas tellement, finalement. Non. J'avais commencé, j'étais élève au Vieux Colombier. J'apprenais à jouer la comédie. Et puis, il y a eu, c'était au moment de Saint-Germain-des-Prés, juste après la guerre. Et les caves se sont ouvertes, là. Et il y a eu des besoins. On a demandé à des comédiens s'ils voulaient bien jouer dans, ou bien s'ils avaient un numéro, s'ils voulaient... Et c'est comme ça que j'ai été amené très vite à monter un numéro avec des camarades, et que j'ai été tout de suite dans le coup.
Quel a été le premier numéro que
vous avez monté? C'était un premier numéro, il s'appelait Les Trois Cousins.
C'est ça. Puis après, il y a eu Les Deux Pinsons.
Les Deux Pinsons. Ouais, c'est ça. Les Deux Pinsons.
Qu'est-ce que après, c'était, Les Trois Cousins?
Les Trois Cousins, c'était des textes, et puis des choses... par exemple, moi, je disais le Bill Bocquet, l'histoire du Bill Bocquet, de Charles Cross, entre autres. Et puis, on inventait aussi déjà des textes. Il y avait deux comédiens avec moi, il y avait André Gilles et Georges Denis. André Gilles qui a écrit...
Avec Charas.
Avec Charas, c'est ça, oui. Et alors, voilà, alors on a commencé, on est passé, on est resté 5 ou 6 mois au Vieux Colombier, dans la cave du Vieux Colombier, où il y avait Claude Luther et Sidney Bechet. J'ai connu tout ça. Mmh. Et puis ensuite, Michel Doré a monté un spectacle qui s'appelait La Perle du Colorado, Et il avait besoin d'enchaînements musicaux pour sa pièce. Et il nous a demandé, je joue un peu de guitare. Il m'a demandé, avec Verbeek, Robert Verbeek, qui était un comédien aussi du Vieux Colombier, un élève comme moi. Et tous les deux, il lui jouait du ukulélé et connaissait des chansons américaines. Alors on s'est assemblés et on a fait les enchaînements de la pièce. Et les enchaînements ont eu tellement de succès qu'après, on a rassemblé les enchaînements et on en a fait un numéro. Puis ensuite, c'est à suite de ça que j'ai fait entrer chez Fabry, qui était aussi élève au Vieux Colombier.
Les Pinsons ont fait un disque, d'ailleurs, que Canetti avait publié.
C'est ça.
Le répertoire des Pinsons, c'était ces chansons américaines.
C'était des chansons américaines.
Vous êtes passé aux Trois Baudets avec.
Oui, et en fond, c'est comme ça que j'ai connu M. Canetti, puisque vous en parlez. Mmh. Et puis, ensuite, alors, je suis rentré chez Fabry. Je suis resté deux ans et demi. Et pendant une des tournées chez Fabry, j'ai écrit mon premier texte, qui a été La Mer démontée. Alors, j'ai quitté la compagnie et j'ai commencé ma carrière. Je suis rentré dans un petit cabaret, j'ai demandé à passer une audition. C'était au Cheval d'Or.
Chez Sucaisser,
une époque extraordinaire. Ouais. Et puis ça a marché tout de suite. Alors j'ai écrit un deuxième texte, puis un troisième, et puis j'en suis là.
Alors est-ce que ça a été une révélation pour vous, cette Mer démontée qui a du succès?
Oui, c'est-à-dire que vous savez, je voulais, depuis très fort longtemps, tout de même, les choses ne se font pas aussi simplement, depuis fort longtemps, je voulais faire un tour. Je voulais, c'est quand même ce personnage, j'en avais conscience, si vous comprenez. Alors je voulais tout de même trouver une matière, et je voulais faire un numéro musical, vous voyez comme c'est curieux. Et je me disais, évidemment, on ne peut pas faire un numéro musical comme ça, il me faut des situations. C'est un peu le comédien qui réclamait des situations. Et en partant de cette idée, je me suis dit, il faut que j'écrive un ou deux textes, il faut que je trouve des choses à raconter. Et en cours de tournée, j'ai eu comme ça, tout d'un coup, deux, trois occasions. Et je m'en suis saisi, emparé. Et j'ai écrit ce premier texte qui était La Mer démontée. Et je dois vous dire que lorsque j'ai inventé ce texte, je ne pensais pas que ça aurait cette force. Je l'avais fait comme ça pour m'amuser, et surtout pour amuser les camarades dans le car, pendant la longue tournée. Et alors, cette pauvre Mer démontée, est-ce qu'ils ont pu l'entendre? Parce que j'en rajoutais tout le temps. Au début, c'était quatre phrases. Puis le lendemain, j'avais retrouvé trois, quatre phrases. Alors je reprenais du début, etc. Quoi, François. J'ai dû les rajouter à fondement.
J'avais trois jours devant moi, je dis, tiens, je vais aller voir la mer. Je prends le train, j'arrive là-bas, je vois le portier de l'hôtel, je lui dis, où est la mer? Il me dit, la mer, elle est démontée. Ah ben, j'ai voulu la remonter quand? Il me dit, c'est une question de temps. Tu dis, moi, je suis ici pour 3 jours. Il me dit, en 3 jours, l'eau a le temps de couler sous le pont. Je dis, le pont? Merci, je vais attendre demain. Alors, le lendemain, je demande, où est le pont? Il me dit, le pont, quel pont? Ben, j'ai le pont, quoi. Il me dit, il n'y a pas de pont. Je dis, comment, il n'y a pas de pont? Il me dit non, il y en avait un, mais on l'a démonté. Comment j'ai vous démonté tout ici alors? Il me dit c'est la guerre. Ben, je dis vous la remontez quand? Il me dit tous les 20 ans. Je dis moi je suis ici pour 3 jours. Il me dit en 3 jours vous avez des chances. Je dis bon, je vais attendre demain. Alors le lendemain je me dis tout de même avant de partir. Faut que je me débrouille pour voir la mer. Je vois le portier de l'hôtel, je lui dis, je voudrais voir la mer. Il me dit, c'est pas possible. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que c'est la fête. Ah, je dis, c'est la fête? Il me dit, oui, alors on fait le pont. Oh, ben, j'ai dit, si vous refaites le pont, je vais pouvoir voir la mer. Il me dit non parce qu'il y a le feu d'artifice. Ben, j'ai le feu d'artifice, je le verrai de la mer. Il me dit, vous le verrez mieux de votre chambre. Mais je dis, ma chambre, elle donne pas sur la mer. Et bien il me dit, le feu d'artifice non plus. Mais je dis, je m'en fous, moi, de votre feu d'artifice, je veux voir la mer. Il me dit, c'est pas possible, pas possible. Je dis, comment? Il me dit non, parce qu'il y a les gradins. Je dis, quel gradin? Ils me disent, ils ont mis des gradins sur la plage pour voir le feu d'artifice. Je dis, ils ont mis des gradins. Alors moi, je viens de Paris, je prends le train,
Je me donne du mal, tout ça. Oh, il me dit, pleure pas, tu la reverras, ta mère. Et moi, je dis, je veux la voir tout de suite. Il me dit, c'est pas possible. Alors, je lui dis, les gradins, vous les démontez quand? Il me dit, quand la mer sera remontée. Et ben, je dis, vous la remontez quand, la mer? Il me dit, quand vous serez parti.
Ces émissions ont été diffusées le 4 mai et le 3 avril 1970. Vous pouvez les réécouter pendant 1000 jours et les télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr.
Je viendrai te prendre, je saurai te défendre. Au-delà des frontières, je foulerai la terre. Je tisserai des champs aux soirées au levant. Un point pour chaque étoile, chanson de toile. Je tisserai des champs aux soirées au levant. Un point pour chaque étoile, chanson de toile.
Aux soirées.